tout à l'heure.
Le mal logement. Ouais, maintenant, ouais, c'est un enfer. Et bon, outre le fait des gens qui habitent dans la rue, qui ça est un énorme autre problème, mais vraiment les gens qui habitent dans des taudis, quoi. Taudis humides, des passoires thermiques. Je comprends pas.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, toujours en effectif réduit aujourd'hui, puisque oui, Manon Mariani, que nous ne surnommons plus désormais Topinette, mais Gollum, rapport à sa nouvelle voix d'outre-tombe, plus rocailleuse que celle de Joe Cocker sur la fin. La Marianoche, donc, est toujours alitée avec une tisane aux herbes, dont j'aimerais vous dire que ce sont des herbes légales, des sachets éléphants, mais vous connaissez ses inclinations. Un repos forcé qui pèse sur son moral, et elle, d'habitude si douce, si bienveillante avec ses proches, devient assez irritable, comme Quentin a pu le constater quand il a voulu hier, alors qu'il lui rendait visite, ajouter une cuillère de miel à son infusion aux herbes.
Qu'est-ce qu'il fait ? Stupide hobbit joufflu !
Manon, Quentin n'est pas joufflu. Hobbit peut-être, mais pas joufflu. Bref, vivement qu'elle se remette.
J'ai du poil sur les pieds.
Et qu'elle nous revienne. Oh mon Dieu, voilà une précision qui plaira à vos
comme
fans.
Comme le Hobbit.
Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses tendances. Et aujourd'hui, la tendance qu'on va examiner n'est pas réjouissante. Elle est même glaçante. Car pendant que vous vous prélassez dans vos appartements haussmanniens de 130 mètres carrés, certains poussant même le curseur de l'insolence jusqu'à posséder une résidence secondaire à la campagne. Je pense à notre stagiaire Jade, qui possède la moitié de Deauville. Eh bien, dans son dernier rapport, la Fondation pour le logement des défavorisés parle de 2025 comme d'une année noire du mal-logement en France. Un diagnostic qu'on a l'impression d'entendre chaque année qui démontre qu'au-delà des effets d'annonce des dirigeants politiques, le combat pour le logement semble faire du surplace, et ce, malgré les engagements répétés d'Emmanuel Macron durant chacune des 2 dernières campagnes présidentielles. Alors, bien sûr, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va sortir tout le monde de la rue.
For sure.
Personne ne dit que c'est facile de garantir un accès au logement décent à tous.
For sure.
Mais est-ce que, devant cette situation de plus en plus inquiétante, on ne manquerait pas tout de même un tout petit peu de volonté politique quand même.
For sure.
Voilà, merci pour votre honnêteté, monsieur le président. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Christophe, vous êtes le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, qu'on appelait jadis Fondation Abbé Pierre. Vous publiez aujourd'hui le 31e rapport de la Fondation sur le mal-logement, rapport qui mesure pour la première fois une nouvelle tendance malheureuse, l'hébergement contraint chez un tiers. On va y revenir. À un mois et demi des élections municipales, vous interpellez les pouvoirs publics locaux sur la situation du logement, un système à bout de souffle, dites-vous. Vous appelez également à faire du logement un droit fondamental effectif. Les chiffres, on va le voir, font froid dans le dos. Vous allez nous expliquer tout ça, comment on en est arrivé là, comment on peut remédier à cette situation. Juste le temps de vous présenter 2 nababs de l'audiovisuel public qui vivent dans des appartements si onéreux et au luxe si ostentatoire que je n'ose même pas vous les décrire. Cyril Lacarrière, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cyril, vous êtes
cette
en forme.
Joie de vivre communicative, Cyril, c'est vraiment votre marque de fabrique.
Vous dites qu'on a des appartes onéreux, c'est ça?
Oui.
Vous êtes le seul autour de la table à avoir un paysagiste pour votre terrasse, mais on a des appartes onéreux.
Mais de quoi parlez-vous? Mais vous vivez vraiment dans un autre monde. Je ne sais même pas ce qu'est un paysage. Je ne sais même pas le dire. Vous voyez, ça, c'est un mot qui n'arrive pas à sortir de ma bouche. Face à vous, Christophe, il va peut-être rougir et transpirer de la barbe, mais l'honnêteté intellectuelle, qui est ma colonne vertébrale journalistique, m'oblige à poser la question : qui a besoin de 5 salles de bain chez lui ? C'est indécent, Cyril. Alors oui, je comprends. L'ivresse de l'argent. Maintenant que vous avez doublé votre salaire en vous rajoutant une 3e chronique quotidienne dans la matinale, comme vous me le disiez tout à l'heure en antenne, le pognon, vous ne savez plus quoi en foutre. Certes, mais je vous aurais donné mon avis. Un jacuzzi sur le rooftop, c'est bien joli, mais ça peut vous causer de gros problèmes d'humidité. Enfin, nous ne sommes pas là pour parler travaux, puisque vous allez nous raconter l'origine, non pas du mal-logement en lui-même, mais de la Fondation pour le logement.
Oui.
Merci Cyril. Je savais que vous seriez doué pour le teasing. Je savais qu'en remplace, à ce poste-là, vous excelleriez et vous ne me décevez jamais.
Je sais.
Lui,
c'est pas vrai,
il a su. Non, mais il faut savoir que Cyril est payé au mot.
Ah,
et
oui.
Donc, il n'est pas question qu'il délivre plus de mots.
Très bien.
Voilà.
Dommage pour moi parce que.
Non, vous avez un sacré débit. Lui, justement, il a su conserver un lien privilégié avec ceux que Cyril appelle les gens normaux. Chaque matin, il oublie qu'il évolue dans l'univers du showbiz et de la mode. Il fait abstraction du fait que dans son dressing, il n'y a plus un seul pantalon à moins de 500 euros. Et il part sans appris. À la rencontre des passants, sans s'offusquer de leur accoutrement bas de gamme dégoté chez Uniqlo. Il ne sait plus comment prononcer Uniqlo. Quentin, Vous avez fait réagir les passants à cette question du mal logement. Quelles ont été leurs réactions ?
Je me suis rendu sur le boulevard Bourdon, dans le prolongement de la place de la Bastille, où il y a sur place une quarantaine de tentes, des tentes qui, suite à la décision d'un juge, ont le droit de rester ici jusqu'à la fin de la trêve hivernale. J'ai échangé avec ceux qui vivent la rue au quotidien, malheureusement. Je vous raconte ça dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, alors que Cyril m'encourageait à vous proposer un quiz sur les meilleures combines pour gruger son locataire quand on est proprio et qu'on loue en meublé, j'ai plutôt choisi de vous emmener à la découverte de l'inverse du mal logement, le trop bien logement. Le Zoom Zoom Test vous ouvrira les portes des demeures les plus incroyables. Après 17h, restez bien avec nous, on va parler IA et musique avec le directeur de la plateforme Deezer qui alerte sur le nombre croissant de musiques générées par l'intelligence artificielle. Mais d'abord, l'heure est donc à ce constat, le mal logement ne recule pas en France, il progresse. Christophe Robert, le rapport que vous présentez aujourd'hui estime que 2025 a été, je le disais, une année noire sur le front du mal logement. Avant de revenir sur les chiffres même, est-ce que c'est pas malheureusement ce que vous dites tous les ans qu'on vit une année noire ? Est-ce que rien n'évolue de manière positive ?
Non. Y a des choses qui évoluent de manière positive. On voit par exemple que l'encadrement des loyers mis en place dans un certain nombre de communes sur la base du volontariat des maires fait baisser les loyers. Donc on peut agir. On voit que quand on se mobilise pour produire du logement social, ça détend dans un certain nombre de territoires la situation de ceux qui ont des ressources pas assez élevées pour se payer le marché actuel. On voit que pendant la période Covid, il y a eu cette préoccupation vis-à-vis des personnes sans-abri, vis-à-vis des personnes menacées d'expulsion locative, qu'on a réduit sensiblement le nombre de personnes à la rue et qu'on a réduit sensiblement le nombre d'expulsions locatives. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Donc à un moment, il faut le dire. C'est tout. Donc, si on prend l'exemple du sujet des municipales, on fait un chapitre qu'on présente ce matin sur l'enjeu des municipales. Quand vous avez des collectivités qui agissent pendant 20 ans, elles changent la donne pour les habitants de cette ville. Quand il y a des collectivités qui font rien pendant 20 ans, ça a été le cas pendant longtemps à Marseille, c'est une catastrophe et on connaît les catastrophes auxquelles ça a pu conduire.
Mais il y a quand même donc des éléments très positifs.
Mais oui, mais bien sûr. En fait, on peut faire autrement. Le problème, c'est que ce truc du logement, il est souvent considéré comme coûteux, comme technique, comme compliqué. Les fruits de ce que l'on fait, c'est pas pour l'année en cours, les deux ans à venir, c'est souvent après son mandat de maire, mandat de président.
Quand on est politique, on n'est plus là, donc...
Sauf que c'est pour les gens, quoi. Donc il y a un moment, il faut faire le boulot.
Pour nous raconter à présent l'origine de votre fondation, celui qui était là, le 1er février 1954, quand il faisait moins 15 dans Paris, il était stagiaire pigiste au journal L'Aurore, et il avait donc couvert cet événement, l'appel d'un homme qui ne supportait plus de voir des gens mourir de froid. Cyril, ne n'oublions pas la Fondation pour le logement, d'où ça sort.
Imaginez Paris, nuit du 1er février 1954, il fait moins 15 dehors. Dans les rues, des sans-abri meurent de froid. Un petit prêtre en soutane et béret force les portes de Radio Luxembourg. C'est l'ancêtre de RTL. Il lance un cri du cœur. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol. C'est l'acte de naissance de ce qui deviendra la Fondation Abbé Pierre. Oui, en France, en 1954, on crève de froid, littéralement. Au sortir de la guerre, la France peine à se reconstruire. Autour de Paris, il y a des bidonvilles. Oui, il y a des bidonvilles autour de Paris. La femme dont parle l'abbé Pierre, c'est Yvette. Elle avait été expulsée de son logement la veille. Elle a été retrouvée morte avec dans ses mains le papier d'expulsion de l'huissier. Un détail qui va rendre fou de rage le religieux. Après l'appel radio, miracle, un élan de solidarité emporte le pays. Les gens apportent des couvertures, de la soupe, de l'argent. Une légende raconte même que Charlie Chaplin, qui était à Paris à ce moment-là, aurait donné 2 millions de francs.
Alors, 1954, c'est la date du discours, mais pas la date de la naissance de la Fondation.
Non, en fait, elle naît beaucoup plus tard, en 1987, et est officiellement reconnue d'utilité publique en 1992. L'abbé Pierre avait compris que la charité ne suffisait pas et qu'il fallait une structure politique pour changer réellement les choses, ou en tout cas essayer de changer les choses. Et c'est elle qui publie chaque année le terrible rapport sur le mal-logement dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, d'où ça sort la prise en compte du mal-logement ? Eh bien, de l'appel au secours poignant d'un homme qu'on imaginait incroyable et qui s'est révélé être un prédateur sexuel. Mais ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est celle de ceux, et ceux qui sont mal logés et parfois même pas logés du tout.
Merci Cyril pour ce brillant exposé. Le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, Christophe Robert, est avec nous justement pour le 31e rapport sur le mal logement dévoilé aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Christophe, un mot, la fin de la chronique de Cyril. Est-ce que vous avez réussi à tourner la page de l'impact des affaires terribles qui touchent l'abbé Pierre à la Fondation ? C'est déjà du passé ?
Humainement, non. Enfin, la violence... Oui. Terrible, enfin, je veux dire. Donc, on pense bien évidemment à toutes ces femmes qui ont subi des violences graves de l'abbé Pierre. La fondation elle-même, parce qu'il y a tout le mouvement Emmaüs aussi qui est né après 54, mais la fondation, elle a un modèle économique un peu particulier, c'est qu'elle n'a pas de subvention publique.
L'idée,
c'est une question d'indépendance pour les actions qu'on mène et le plaidoyer politique que l'on fait. Et en fait, enfin, 97% de ses ressources, c'est la générosité du public, c'est des dons, c'est des legs, c'est des donations. Et en fait, il y a une partie des gens qui donnaient, qui ne donnent plus, qui n'ont pas vraiment apprécié qu'on ait rayé l'abbé Pierre.
Ah d'accord.
Considérant que oui c'est un peu contre-intuitif, en disant voilà c'est une vieille histoire. Vous parlez de victimes, ce sont des plaignantes. Pourquoi elles ne se sont pas réveillées avant? Mais on sait comment ça marche, les violences sexuelles. Donc je crois que c'était nécessaire nous de rendre visible avec le mouvement Emmaüs que nous apprenions à ce moment-là. Et puis c'était nécessaire de changer de nom par respect pour les victimes. Donc il y a une baisse de dons. Donc l'histoire n'est pas finie aussi sur ce volet-là, au-delà de la douleur pour les femmes. Mais voilà, c'est comme ça, il fallait prendre nos responsabilités, on les a prises. Ce qui m'ennuie dans cette histoire, encore plus que ce que vous pouvez imaginer, c'est que nous, avec cet argent de la générosité du public, on finance 800 associations, 800 projets par an, portés par 500 assos, et la baisse du don, forcément, réduit notre capacité à aider tous ceux qui aident les mal logés, les sans-abri. Donc ça me fout en colère.
Pour revenir sur le but de l'association, on se souvient de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 qui promettait que plus personne ne serait à la rue d'ici la fin de son premier mandat, même si ça concernait, il parlait ce jour-là dans le contexte des migrants. Oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est un problème d'argent ou c'est un problème de volonté politique?
En fait, c'est parce que c'est plus compliqué que ça. C'est que s'il y a aujourd'hui des personnes à la rue, et malgré le nombre de places d'hébergement qui a augmenté sensiblement, notamment pendant la période Covid, c'est qu'en fait, il y a deux problèmes. En amont de cette histoire de l'hébergement d'urgence, il y a plein de politiques publiques qui sont défaillantes. Les personnes qui sortent de prison sans logement. Les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sans solution de logement. Les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques qui ne sont pas accompagnées par la santé publique. Les personnes qui sont expulsées de leur logement.
C'est parce que ce n'est pas pensé, tout ça.
En fait, c'est plein de petites politiques qui font qu'à un moment, leurs insuffisances, on va faire que les personnes vont se retrouver à la rue. Et puis, parallèlement, il y a des personnes qui sont dans l'hébergement d'urgence ou dans l'hébergement d'insertion, mais le logement, c'est tellement cher qu'ils ne peuvent pas en sortir. Donc, c'est bloqué. Le système est bloqué. Donc, c'est toutes ces politiques qu'il faudrait activer ensemble, raison pour laquelle ce n'est pas si simple que ça, mais il faut le faire.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il se porte bien, hélas, le mal-logement. Christophe Robert, le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, est avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom. Christophe, pour la première fois cette année, vous avez mesuré ce que vous appelez l'hébergement contraint chez un tiers. De quoi s'agit-il ?
En fait, c'est un amortisseur de crise assez invisible. C'est la raison pour laquelle on a choisi de traiter le sujet. Dans pas mal d'aides qu'on apporte aux personnes ou dans des travaux d'études que l'on mène depuis plusieurs années, on voyait ce phénomène ce phénomène grossir en quelque sorte. Et de fait, aujourd'hui, on identifie à peu près 600 000 personnes qui sont hébergées chez des tiers de manière contrainte. Je disais, c'est un amortisseur de crise parce qu'en fait, quand on n'a pas de solution de logement, parce que c'est trop cher, parce que plein de raisons, on va faire appel à la solidarité de proximité, familiale, de voisinage, amicale, parfois communautaire quand on est en exil dans le pays. Mais en fait, et c'est ça qu'on documente dans ce rapport aujourd'hui, c'est que les situations pour les personnes sont très difficiles. C'est-à-dire, vous avez un bout de canapé ici, il faut vous adapter au mode de vie de celui qui vous héberge.
On n'est pas vraiment chez soi.
On n'est pas vraiment chez soi, il n'y a pas d'intimité pour les mômes, c'est très difficile.
C'est compliqué.
Et puis, il y a beaucoup de contreparties aussi.
C'est compliqué, j'imagine, d'étudier parce qu'il y a une forme de honte ou de tabou à être hébergé chez quelqu'un.
Un peu, pour certains, effectivement, qui n'ont pas trop envie de dire leur situation. D'ailleurs, c'est difficile parce que, par exemple, il y a des effets comme ça collatéraux. Quand un employeur vous dit vous devez donner une attestation de logement.
Comment on fait ?
Et vous avez demandé à votre hébergeur, mais vous voyez bien que ça l'embête parce que est-ce qu'il a vraiment le droit, pas le droit ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Et puis aussi, alors parfois ça peut être de la solidarité qui est très utile, c'est-à-dire ça va être un tremplin, ça va durer 2-3 mois et la personne va pouvoir se refaire et puis retrouver une situation plus solide, plus pérenne. Mais parfois c'est très difficile parce que c'est le dernier rempart avant la rue pour certains. Et il y a des contreparties qui sont demandées aussi parfois. On va faire
même
le ménage, on va garder les mômes.
Même en famille.
Moins en famille, dans les réseaux communautaires, dans le dépannage comme ça. Puis comme ça dure, on voit bien que la personne...
C'est faussement
même,
gratuit,
même,
parfois.
Même des contreparties parfois sexuelles.
Ah oui, ça vous avez des cas comme ça.
Et ça nous a beaucoup effrayés, évidemment. Et on a des femmes qui témoignent en disant, des personnes qui sont à la rue, qui leur disent, mais écoute, si toi t'es prêt à avoir des rapports sexuels, normalement on devrait trouver une solution. Ouais, enfin bon, d'accord, merci. Mais... Et donc, on voit bien à quel point... D'abord, c'est une privatisation de la réponse, donc c'est pas satisfaisant, parce que celui qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis pour les héberger, il est vraiment en grande galère. Et puis, c'est vraiment un indicateur de crise et la montée en puissance de ce sujet nous préoccupe beaucoup.
Est-ce que ce sont typiquement, vous avez nommé des femmes, mais est-ce que ce sont typiquement la mère de famille divorcée, qui perd son job, qui se retrouve à revenir vivre chez ses parents, par exemple ?
Oui, ça peut être ça. C'est beaucoup de jeunes aussi, c'est beaucoup de familles monoparentales, c'est des familles, enfin des couples qui se séparent et effectivement qui vont retourner chez leurs parents. C'est aussi parfois une personne plus âgée. Vous verrez dans les statistiques qu'on présente de plus de 60 ans, de personnes qui, après un décès du conjoint, une séparation, même à cet âge-là, on peut se séparer, et même parfois un retour chez... Enfin, un aller chez les enfants. Enfin, mais en même temps, regardez, quand vous avez deux salaires, vous arrivez parfois, si les salaires sont à peu près convenables, à vous loger, moyennement dans les villes. Mais dès que vous n'en avez plus qu'un,
ça devient très compliqué.
Partagez pas l'effort, si vous voulez, et c'est très difficile. C'est aussi la raison pour laquelle, parfois, des couples restent un temps ensemble alors qu'ils ne sont plus ensemble. Parce que c'est difficile d'aller y cohabiter, parce que c'est difficile d'aller chercher deux logements.
Pour vous, l'hébergement chez un tiers est une réponse par défaut aux insuffisances des politiques du logement, notamment au manque de logements accessibles et de solutions pérennes. C'est donc vraiment pas une solution viable.
Non. Il faut le prendre positivement. Dans la mesure où ça peut être une réponse temporaire, c'est mieux que la rue. Je prends l'exemple d'une femme victime de violence. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est expulsé de son logement. C'est quand même un fléau, hein. C'est, les chiffres des expulsions, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on parlait d'années noires sur le mal logement, notamment. Là, effectivement, plutôt que de vous retrouver, si on ne vous propose pas un hébergement d'urgence, les services sociaux, vous retrouvez à la rue du jour au lendemain. Là, c'est, vous voyez bien, ça dépanne. Mais si ça dure, on a pas mal de témoignages de gens, c'est juste pour 3 semaines, et puis 3 ans après, et puis 6 ans après. Et là, les tensions peuvent être fortes et difficiles à vivre aussi pour celui qui héberge.
Un mot peut-être, Christophe Aubert, sur les expulsions. Vous mentionnez, les chiffres des expulsions sont en hausse en France ?
Catastrophe sur les expulsions. On est à 25 000 ménages en 2024 qui ont été expulsés avec le concours de la force publique, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui viennent vous virer, 25 000 ménages.
Donc là, il y a une volonté politique derrière ça.
Ah, mais clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours noir. C'est... Non, là, c'est une multiplication, ça a augmenté de 50% en 2 ans. Oui, c'est la loi Casbarian-Berger qui a accéléré les procédures d'expulsion locative, qui a réduit les capacités des juges à donner des délais, même quand ils voient des situations sociales difficiles. C'est le fonds d'indemnisation des propriétaires quand un préfet il doit prendre la décision. Quand il y a une décision de justice, il doit dire, il envoie les forces de l'ordre pour changer la serrure, mettre les meubles en bas de la cage d'escalier. Et quand il voit une situation sociale difficile, il peut différer l'expulsion. Le temps de trouver une solution
donc,
alternative.
Par exemple, des
ce
loyers
fonds ayant baissé, il ne peut plus financer les propriétaires parce que s'il n'applique pas tout de suite la décision de justice, il faut dédommager les propriétaires, c'est normal. Mais si ce fonds, il diminue, ce qui est le cas, eh ben le préfet a moins de solutions à sa main.
Quentin, contrairement à Cyril qui n'aime que Bono, vous aimez les gens. C'est la raison essentielle, la seconde étant que vous êtes super bien payé pour ça, pour laquelle chaque matin vous partez à la rencontre des passants, histoire de savoir ce qu'ils pensent de notre sujet du jour.
Nous sommes au pied de la colonne de Juillet, au milieu de la place de la Bastille à Paris. À ma gauche, l'Opéra Bastille, à ma droite, le boulevard Bourdon. C'est sur ce boulevard, qui surplombe le port de l'Arsenal que je me trouve, il y a ici une quarantaine de tentes, les unes derrière les autres. Ces tentes qui ont officiellement le droit de rester là jusqu'à la fin de la trêve hivernale. À l'intérieur des sans-domicile fixe, ici je rencontre Hélène. Elle est américaine, elle habite le Michigan, elle visite Paris. Nous discutons du fléau mondial qu'est le mal-logement.
Je suis tout à fait d'accord, on a le même problème aux États-Unis. Il y a les gens qui souffrent aussi, comme à San Francisco ou dans les grandes villes. Mais là-bas, il ne fait pas très froid, alors ils peuvent, mais... Bon, ils logent dans les rues, quoi, sur les ponts, oui.
Là, on a des tentes qui sont tout là.
Oui, j'ai vu ça, c'est génial, ça.
Ils ont une autorisation jusqu'à la trêve hivernale, en France, c'est comme ça.
D'accord.
De laisser leurs tentes ici et qu'on ne les embête pas et qu'ils viennent dormir.
D'accord, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que sur les ponts, quoi. Alors, je trouve que c'est une bonne idée, mais bon, il faut plus que ça.
Mais concrètement, on fait quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut encore changer?
Je sais pas. Moi, je suis prête à donner plus de taxes pour aider les autres, mais...
Il faudrait une taxe du mal-logement pour aider les gens?
Oui, je serais d'accord.
Mais concrètement, c'est ce que dit Hélène, elle serait d'accord. Alors qu'il zigzague avec son vélo cargo, Alex découvre la notion de notre époque qu'on décortique aujourd'hui.
Le mal-logement. Ouais, maintenant, ouais, c'est un enfer. Ouais, c'est un problème qui me concerne pas, mais ça devient de plus en plus visible, surtout que moi ça concerne des amis en fait, quoi. Donc c'est des gens qui ont des appartements de merde, pas entretenus. Et j'ai même une amie qui se lance dans un documentaire pour loger un ami à elle, justement.
Le mal logement, il a raison, c'est vaste, mais je sens que ça le touche.
Enfin, ça me terrifie, ça me dégoûte, ça... Et j'ai pas l'impression que politiquement ça bouge énormément sur la question, ou soit très peu à la marge. Enfin, ça fait quand même quoi, ça fait 30 ans que j'habite à Paris, ça fait 30 ans que j'entends ça, ça fait 30 ans que c'est pas réglé, ça fait 30 ans que les... Et bon, outre le fait des gens qui habitent dans la rue, qui ça est un énorme autre problème, mais vraiment les gens qui habitent dans des taudis quoi. Taudis humides, des passoires thermiques, je comprends pas, je suis atterré, les mots me manquent, donc je m'attendais pas à répondre à cette question maintenant.
Je marche le long de ces tentes sur ce boulevard parisien, et au loin j'aperçois cette femme qui danse sur de la musique que diffuse son portable, cigarette à la main, elle porte une doudoune noire épaisse et un legging, elle vient de sortir de sa tente et porte des claquettes. Je m'approche, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Nadia.
Nadia, vous avez quel âge ?
39 ans.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation ?
Il m'est arrivé une tragédie, j'avais une maison. J'ai tout laissé chez moi où j'habitais à Nancy.
Je sens que son histoire est très lourde et que le poids qu'elle porte sur ses épaules est immense. Ça fait longtemps qu'elle est ici ?
Ah, moi avant j'étais là-bas, à Pont-Sully. Et après ils nous ont évacués pour Châtelet-Place, je sais pas quoi. Et après j'étais à la bibliothèque d'Arsenal et je suis venue ici, c'était tranquille. Et j'aime ce petit boulevard. C'est dommage qu'ils veulent nous évacuer, pourquoi donner-nous une maison avant de nous enlever cette toile de tente ?
Ils vous ont mis à disposition des toiles de tente ?
Non.
C'est la vôtre ?
C'est moi qui l'ai achetée. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire pour acheter ça, mais je l'ai fait, au moins je dors en sécurité. Ah. Je remercie les associations qui passent pour les couvertures, pour tout. C'est des gens bien.
Je lui demande comment se passent les nuits et la vie dans la rue en tant que SDF et en tant que femme.
T'es obligée d'être forte. T'es obligée de survivre. D'être comme un garçon. D'être agressif. C'est une carapace, mais t'as pas le choix. Sinon, déjà moi avec ce qui m'arrive, j'ai pas le choix de vivre comme ça, de faire ça. Mais depuis que je me suis fait violer, bah je dors avec un couteau.
Nous discutons de la vie, du futur aussi. Qu'est-ce qu'elle compte faire ?
Là, avec tout ce qui m'est arrivé, j'avais abandonné mes papiers et tout. Donc, je suis avec la Maraude d'Emmaüs maintenant, à Sébastopol. J'ai fait une demande de on a fait une demande de logement et mon assistante sociale est très gentille parce que je peux avoir un logement moins de 6 mois avec une aide spéciale pour les gens de la rue. J'espère que ça va fonctionner, qu'ils vont me le donner parce que je le mérite, j'ai envie de m'en sortir.
Avant de la laisser, elle me rappelle une chose.
Bah, ça peut arriver à n'importe qui demain. Je suis pas la seule. Il y a combien de SDF à Paris ? Eh, il y en a au moins 100 000, si je suis pas... République, Bastille, c'est partout.
Nadia a 39 ans. Et pourtant, dans ce chaos, il reste quelque chose, une demande de logement en cours, des associations qui accompagnent, un espoir fragile, mais vivant. Le mal-logement, ce n'est pas une statistique ni un débat abstrait. C'est cette femme qui danse devant sa tente à la Bastille pour rester debout.
Merci Quentin. Christophe Robert, on a envie d'entendre votre réaction à ce micro-trottoir. Quand on entend le témoignage de Nadia notamment, on comprend que pour une femme, la rue c'est encore plus violent.
Ouais, enfin, on entend beaucoup de souffrance, c'est dur. Moi, ça me laisse pas indifférent, je m'y ferai jamais. On voit qu'il y a beaucoup de réponses qui sont apportées quand même par les associations. Là, on parle de la Maraude d'Emmaüs, donc connue par les personnes.
Mais c'est aussi un peu triste, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État, c'est des associations qui sont là
alors
et
ça,
qui aident en première ligne.
Là, il y a une partie des associations qui sont financées par l'État ou la puissance publique locale. Il faut dire ce qui est, et tant mieux. Ça ne suffit pas. On voit aussi qu'il y a une question de lien. Il y a une question de personnes qui ont vécu des choses très difficiles. On le voit à travers le témoignage de Nadia. Des parcours chaotiques, des parcours semés d'embûches, de violences. Donc il y a aussi des questions derrière psychiques, des problématiques d'accompagnement. Quand Nadia dit « ça peut arriver à tout le monde », alors ça peut arriver pour quelques jours après un événement. On parlait tout à l'heure d'une rupture, de violence conjugale, mais pas longtemps dans la rue. C'est-à-dire qu'on sait aussi que parmi les personnes à la rue, il y en a beaucoup qui ont vécu des parcours à l'aide sociale à l'enfance, mais on n'a pas assez accompagné leur sortie. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes psychiques, des problèmes psychiatriques. Donc on voit bien que ça soulève des questions aussi plus larges, au-delà de l'hébergement ou du logement en tant que tel, même s'il y a des personnes, c'est uniquement pour des questions de logement qu'elles se retrouvent sans solution. Mais ce qu'on perçoit aussi à travers votre témoignage, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Parce que on peut pas, enfin je veux dire, on peut pas s'habituer. Moi souvent on me dit, mais t'en as pas marre, c'est 20 ans, fondation, avec ce rapport, avec toutes les actions. Bah déjà les actions qu'on mène, elles sauvent des vies, elles apportent des réponses concrètes aux personnes. Et puis il faut continuer. Le pire ce serait de pas regarder, le pire ce serait pas de mesurer les choix économiques, l'évaluation des politiques publiques et le fait qu'on peut faire autrement, vraiment on peut faire autrement.
Elle dit une chose qui j'ai vu vous a fait... réagir, elle dit j'ai dû faire ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir m'acheter cette tente. À quel point c'est différent être un homme ou une femme dans la rue ? C'est une double peine.
Oui, pardon, c'était votre question initiale,
oui, non,
mais
vous avez
c'est beaucoup plus dur. Effectivement, il y a un nombre croissant de femmes sans domicile, de femmes à la rue. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente. On a un nombre croissant d'enfants à la rue. Juste pour que vous fassiez une idée, le seul indicateur que l'on ait pour mesurer ça, c'est les appels au 115 chaque soir de personnes qui, sans logement, le soir venu, sans toit sur la tête, appellent le 115. Et chaque soir, c'est 7 à 8000 personnes à qui on dit « bah ouais, mais il n'y a pas de place », dont 2000 à 3000 enfants. Et en fait, cette insuffisance de réponse, alors là, par le coup, on est dans l'insuffisance, puisque des gens appellent au secours et on ne leur donne pas une solution. Elle est terrible, parce qu'en fait, on en vient, dans des départements, à droite, à gauche, dans des villes, à dire, bah, vous avez des enfants de plus de 5 ans, ah bah non, nous on peut prendre que les familles avec enfants de moins de 5 ans. Vous êtes une femme enceinte, aïe, mais depuis combien de temps vous êtes enceinte? 3 mois, ah bah non, on peut que prendre les femmes enceintes, enfin, on en est là, on en est là. Donc, il y a aussi un problème d'insuffisance de place, notamment parce que, juste pour finir, pendant la période Covid, on avait augmenté significativement le nombre de places, plus 40 000 places en France, pour atteindre 200 000, et depuis 2021, le gouvernement ne veut plus augmenter. Et là, on voit bien que ça nous empêche d'apporter une réponse à chacune et à chacun.
Mais comment on crée des places? Parce que le bâti, il est là, il est ce qu'il est.
Par exemple, vous pouvez prendre des bâtiments qui sont vides, des lycées qui sont vides, des hôpitaux qui sont vides, les associations, on a parlé d'Emmaüs Solidarité, d'autres, savent équiper un espace pour accueillir des personnes.
C'est le cas de Genèse.
Pardon, mais pourquoi ils ne le font pas plus?
Parce qu'il faut des sous.
Oui, parce que ça représente un coût.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vous dis que le gouvernement, depuis 2021, après avoir augmenté sensiblement le nombre de places, a stoppé, ben là, ça veut dire qu'on n'en crée pas plus. On n'en crée pas de nouvelles. Mais on sait carrément faire. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème.
Mais quand il y a un
faire.
Plan grand froid, on peut aménager un gymnase, on le fait, ça.
Non, mais temporairement.
Ouais.
Nadia, vous allez d'accord, elle va peut-être aller parce qu'il fait très froid.
Elle va passer 3 nuits dans le gymnase. Ouais.
Mais après, le gymnase, il ferme. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre toutes les solutions, toutes les réponses pour mettre tout le monde à l'abri. Et après, c'est un suivi, c'est un accompagnement vers des solutions dignes et durables.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pour cette séquence récréative de l'émission qu'est le Zoom Zoom Test, j'avais d'abord pensé à opter pour un quiz au cœur du sujet, le mal-logement, avec des infos utiles pour nos auditeurs souhaitant investir dans l'immobilier, avec des questions pratiques du genre « Est-il légal de louer un appartement de moins de 9 mètres carrés, sans chauffage fixe et en sous-sol ?» Bon, la réponse est non, sauf pour l'oncle milliardaire de Quentin qui a bâti toute sa fortune sur la gestion locative et qui préfère qu'on l'appelle « négociant en dodo » plutôt que « marchand de sommeil », expression qu'il trouve péjorative. Un business lucratif en tout cas, dont Quentin a la gestion, profitant de ses micro-trottoirs pour aller ramasser les enveloppes. Mais voilà le mal logement. Je suis le pire d'entre vous.
Avec les témoignages.
Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est terrible. Voilà, le mal logement étant un sujet peu rieur et éminemment sensible pour moi, qui ai grandi, je le rappelle, dans les taudis insalubres des faubourgs genevois, je propose que nous consacrions ce quiz à son exact inverse, un problème largement sous-médiatisé, le problème du trop bien logement. Jouons au Zoom Zoom Test et on commence en France.
Pardon, mais on n'accueille toujours pas Pierre Courade.
Non, mais Pierre Courade est là.
Je m'annonce. Bonjour, c'est Pierre.
Bonjour, Pierre Courade. On commence en France, on finit par s'habituer au fait que vous jouez maintenant au Zoom Zoom Test en remplacement de Manon Mariani, toujours souffrante. On commence en France dans ce château célèbre, un des rares châteaux d'ailleurs qui n'est pas encore listé en vente sur le site Crête Immobilier, le château de Versailles. Vous l'avez tous visité un week-end, vous avez tous prononcé ces mots « Oh, bah, pour une si grande chambre, il est petit, Lully du Roi hein. » ou bien le classique « Ah bah, avec cette hauteur sous plafond, il devait bien se les geler ». Reste que le château de Versailles, du temps de sa splendeur, c'était quand même 2300 pièces, 5000 courtisans à demeure, ou, tout simplement, trois fois plus grand que Buckingham, tocard anglais.
Les trois.
C'est une bonne réponse, plus rapide, de la part de... De Quentin, on me dit que Quentin est plus rapide. Alors moi j'avais entendu Courade, hein. Vous êtes vraiment méchant, Régis. Bonne réponse de Quentin. Versailles sous Louis XIV, c'était 5000 courtisans répartis dans plus de 2300 pièces et ça fait effectivement trois fois plus de pièces qu'à Buckingham. De là à faire un doigt d'honneur en Régis, Cyril, je ne sais pas si franchement c'est nécessaire. Pour le chauffage, c'est vrai, c'était pas simple, mais comme dirait Courade en bouffant des yeux Emmanuel Moire, une grande chaleur émanait du roi. Calmez-vous, Pierre. Je vous rappelle que c'était déjà assez gênant comme ça quand vendredi à Rouen, Emmanuel Moire a demandé...
Juste une petite question. Qui a voulu se taper Emmanuel Moire?
Et vous avez hurlé « Moi !» Alors qu'on était en plus dans une église. Bref, quittons le Versailles du 17e pour le Japon du 20e. Pierre, Quentin, je vous entends souvent râler que se loger à Paris devient un luxe, que le prix au mètre carré est délirant. Eh bien, accrochez-vous à vos PEL, car au Japon, dans les années 80, l'immobilier était tellement cher, surtout à Tokyo, qu'à son pic, en 1986, le mètre carré dans la capitale japonaise était 350 fois supérieur à celui de Manhattan. Ouais. Alors ma question est simple, en 1986, combien valait le plus beau bien de Tokyo, à savoir le palais impérial, là où vit l'empereur? L'équivalent de 10 Trump Tower à New York? L'équivalent de tout le 7e arrondissement de Paris, tous les bâtiments du 7e arrondissement de Paris? Ou l'équivalent de la globalité du parc immobilier de la Californie?
B. J'étais devant là.
Oui, c'est bon, bah, ça va, Pierre.
T'étais
je réfléchis
devant,
encore un peu.
Devant, Quentin.
Moi, je dirais C.
Plus loin,
ouais.
tout tous les bâtiments de la Californie. C'est une bonne réponse de Quentin. Oh oui, mon Quentin. Fascinant Japon. À une époque, le marché immobilier pesait donc 4 fois plus en valeur que celui de la première économie mondiale. C'est fou. Mais pas aussi fou que la Villa Antilla. Tout simplement la résidence privée la plus chère du monde. Aujourd'hui, 37 000 mètres carrés pour une seule famille. De quoi se mettre bien, mais seulement 29 chambres réparties sur 27 étages. Pas hyper pratique. Mais heureusement, il y a l'essentiel. 3 héliports et un parking sur 6 étages. Typique de l'habitat traditionnel éco-responsable de Monaco, de Bombay ou de Shanghai. Ah, où se trouve cette villa? À Monaco. Vous connaissez cet immeuble?
Peut-être.
Certainement un pilote de F1
Verstappen
qui possède.
Est là-bas et
c'est
Hamilton
Verstappen
aussi.
Qui possède cette
maison. Je sais pas, non peut-être pas.
C'est une bonne réponse de Pierre Conrad. Ah, la première. Bravo Pierre. L'Inde, pays de tous les possibles quand vous êtes milliardaire, ce qui est le cas de Mukesh Ambani, propriétaire de la Villa Antilla, un bien dont le prix est estimé à la somme ronde de 1 milliard d'euros. Ouais. Tout simplement, pour moi, c'est surcoté, car certes, vous pouvez garer 3 hélicoptères, mais vous n'avez ni hangar, ni piste de décollage pour votre Boeing 707, à la différence de 50 Cent, qui a tout ça chez lui, Richard Branson, qui a tout ça aussi chez lui, ou John Travolta.
C'est B. John, c'est bah.
Ça peut être le C, c'est vrai.
Oui, mais c'est trop tard, vous avez réalisé. Vous apprendrez qu'il faut toujours bien réfléchir dans une thèse.
Vous avez dit quoi?
B.
C'est une bonne réponse de Quentin. Oh, Et oui, quoi de plus pratique que de pouvoir aller chercher sa baguette en Boeing 707. John Travolta, grande fan d'aviation, fait partie des heureux propriétaires dans cette ville où chaque maison dispose de son propre hangar et de son avion, le Jumbolair Aviation Estates. C'est comme une zone pavillonnaire, sauf qu'au milieu, il y a une piste de décollage.
Ses chemises golpées à la tarte, j'adore.
Dans son célèbre manoir, il n'y avait ni avion ni piste de décollage, mais 2-3 trucs assez sympas aussi. D'après vous, parmi ces 3 affirmations, laquelle ou lesquelles sont vraies concernant le fameux manoir de Hugh Hefner, légendaire patron du magazine Playboy? Il y avait une réplique taille réelle de la grotte de Lascaux. Ses voisins connus disposaient de tunnels privés pour venir à ses soirées en loose day, où le manoir possédait un couloir sans fin qui ramenait toujours au bar, quelle que soit la direction prise.
Les 3.
Non, B et C, il n'y a pas Lascaux. B et C.
Oh, il y a Lascaux, oui.
Il y a Lascaux? Alors tentez une autre réponse.
A et C. A et B?
Non, A et C.
C'est un fiasco. C'était les réponses A et B. Oui, mais vous l'avez dit trop tard. Hugh Hefner, dans son manoir de 30 pièces, disposait d'une grotte de Lascaux, mitoyenne d'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi, du sauna, d'un mini zoo privé, et donc de passages secrets souterrains qui, reliés aux caves de ses célèbres voisins, permettaient à Jack Nicholson, Warren Beatty ou encore Kirk Douglas de passer une tête aux soirées olé olé de Hugh Hefner sans se faire pécho par les paparazzi. Une honte que cet individu n'ait pas été condamné, pense Manon devant son poste. C'était la belle époque, commande de son côté Cyril, en régie. Victoire de Quentin, lui. Vous êtes imbattable quand Manon n'est pas là. 2 victoires d'affilée. Bravo,
c'est fou.
Quentin.
C'est jamais arrivé, je crois.
Non, mais hier, on m'a volé et aujourd'hui, c'était un peu limite.
Vous pouvez repartir, Pierre. On n'a plus besoin de vous. Merci beaucoup pour votre participation. La pause récréative est terminée. Comment enrayer enfin le mal logement en France? Le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, Christophe Robert, est toujours avec nous. Christophe, à qui il est remis ce rapport, le 31e rapport de la Fondation? À qui il est remis? Est-ce que le Premier ministre, est-ce que le ministre de la Ville et du Logement s'en saisissent?
Oui, on a présenté ce rapport lundi au ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Et puis c'est un document qui est à disposition de tous les élus, tous les acteurs du logement. Parce qu'il y a aussi des bonnes pratiques. On parlait tout à l'heure de est-ce qu'on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Oui, c'est le cas par exemple parce que dans le cas des municipales, on a fait un chapitre sur les municipales où on a repéré quelles sont les collectivités et les outils qu'elles mobilisent pour détendre le sujet, pour améliorer la situation des mal logés. Donc c'est vraiment à disposition de tout le monde, à la fois pour rendre visible, évaluer les politiques publiques et être force de proposition.
Alors justement, quand on vote, on va bientôt voter pour les municipales, en tant que citoyen, on ne sait pas toujours quelle est la marge de manœuvre des élus locaux, notamment par rapport à l'État, dans la politique du logement. Au niveau de la ville, quels sont les pouvoirs du maire, notamment?
En fait, ils sont assez importants. Alors évidemment, il y a le ton est donné, les outils sont donnés par l'État ou la législation pour pouvoir réguler les marchés, pour pouvoir favoriser la construction de logements sociaux. Il y a des aides publiques, une fiscalité avantageuse, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses. Par exemple, les élus ont la responsabilité du foncier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont mettre sur un terrain nu? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quel type de logement? Est-ce que c'est des équipements publics? S'ils décident de faire du logement, est-ce que c'est du logement pour les très riches? Est-ce que c'est du logement social? Est-ce que c'est du logement intermédiaire? Donc, il y a
des quotas pour les logements sociaux.
Oui, il y a notamment l'application de la loi SRU. Selon les collectivités, c'est entre 20 et 25%. C'est une loi qui existe depuis 2000.
C'est respecté, ça?
Alors, c'est respecté par depuis que la loi existe, ça fait maintenant un peu plus de 25 ans, ça a été quand même une loi qui a permis de construire la moitié des logements sociaux en France. Donc c'est plutôt positif, mais il y a encore trop de communes qui ne la respectent pas. Voilà un sujet.
Mais comment ils la respectent pas que... Il ne s'expose pas à des amendes
si. Mais il y en a qui préfèrent payer des pénalités financières, ouais. Et là, ça peut être un débat public. Ouais. Pareil, il y a une disposition qui est possible aujourd'hui pour les maires, c'est d'encadrer les loyers. Les loyers trop chers.
C'est une disposition possible, mais ça, c'est à l'initiative du maire.
Alors, la loi l'a permis, depuis peu, et maintenant, il y a 70 communes qui ont décidé de le faire, de droite comme de gauche, parce qu'ils se disaient, mais c'est plus possible, nous, on ne peut plus loger nos habitants, les jeunes qui veulent décohabiter de chez leurs parents, les gens qui viennent bosser dans notre ville ou qui veulent rester dans notre ville. Donc, 70 communes, ça marche. Ben, ça peut être un débat, en tant que citoyen, de poser la question aux candidats et aux candidats, de leur dire, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez appliquer la loi SRU? Est-ce que vous allez mettre en place l'encadrement des loyers? Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses à la main des maires pour changer la donne sur leur territoire.
On est dans une période où, politiquement, c'est assez instable. Est-ce que, on peut le dire, on vient d'avoir un budget, est-ce que l'instabilité politique a un impact sur la politique du logement?
Oui, énorme. Énorme. Écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à la Fondation, je suis à plus de 20 ministres. Je vois bien. Comment vous voulez construire avec des équipes? Comment vous voulez construire, donner... On est vraiment dans un domaine, notamment le logement, c'est pas le seul, mais quand même, où c'est le temps long. Il faut mettre en mouvement les acteurs pour construire, pour rénover les passoires thermiques, dont parlait tout à l'heure un de vos témoins. Il faut donner de la visibilité aux acteurs pour qu'ils s'organisent. Par exemple, la capacité de rénover les passoires thermiques en France, il faut de la main-d'œuvre, il faut des artisans, il faut des acteurs qui se mobilisent. L'instabilité politique sur un sujet comme celui-là, c'est une catastrophe. En fait, j'allais dire, ça empêche même d'agir. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, il n'y a pas d'horizon.
On ne sait pas où on va, puis on ne sait pas qui sont les conseillers, les ministres, etc. Ça tourne sans arrêt. On en est à 3-4 ministres en quelques mois. Comment voulez-vous qu'eux-mêmes puissent déployer leur vision politique et celle du gouvernement? Pendant ce temps-là, ben effectivement, ça rame. Pendant ce temps-là, il se passe pas mal de choses et pendant ce temps-là, on perd du temps.
Dans votre dernier rapport, vous pointez aussi la chute brutale de l'accès au logement social en raison notamment de l'emprise croissante des locations touristiques. C'est un enjeu, ça limitait Airbnb et consorts.
Énorme. Ça, c'est vraiment l'évolution récente, depuis quelques années. C'est deux phénomènes. C'est la multiplication, mais on dirait même la prolifération, et en France, on est particulièrement marqué sur le sujet, des locations touristiques type plateforme Airbnb ou autre. Et la multiplication, notamment dans des zones attractives ou touristiques, du nombre de résidences secondaires. Et il y a encore quelques années, on n'avait aucun outil pour réguler ça, notamment les maires qui en souffrent. Aujourd'hui, on peut commencer à réguler ça. C'est-à-dire en disant, je vais prendre juste un exemple, quand vous... Je ne parle pas de celui qui loue deux semaines par an sur Airbnb sa résidence principale. Hein. Je parle de ceux qui en font business avec des nombres de logements importants qui font que c'est autant de logements qui ne vont pas servir à l'année
c'est
pour ceux qui en ont besoin.
Encadrer.
C'est ceux-là. Aujourd'hui, on peut limiter le nombre de jours.
Ouais.
Et puis, on peut demander des compensations. C'est-à-dire, quelqu'un dit, bah, moi, je veux transformer ce bâtiment ou ce local en 5 logements touristiques. Ah, bah, la ville peut dire, ouais, ok, bah, vous remettez parallèlement 5 logements
sociaux
à l'année
à côté.
Pour pouvoir répondre aux besoins. On peut mieux les surveiller. Même sur les résidences secondaires, par exemple, et le maire de Chamonix l'a fait, on peut dire, bah, dans tel quartier de ma ville, c'est fini les résidences secondaires. Parce que c'est déjà 30%, 40%.
Mais on est obligé de justifier d'un certain nombre de jours passés dans cette maison pour pouvoir l'avoir.
Oui, bah, enfin, pour qu'elle soit reconnue comme résidence principale. Mais en fait, simplement, ce n'est pas idéologique cette histoire-là. Il y a un moment, il ne faut pas laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument réguler les marchés, laisser la main aux maires pour le faire. Les maires commencent à le faire à droite comme à gauche. J'espère que ça va détendre un peu les marchés et aider nos concitoyens à mieux se loger.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Vous avez aimé cette vanne tout à l'heure, parce que oui, je me suis trompé de jour et je l'ai écrite deux fois dans la même émission, ça arrive. D'ailleurs, même si vous ne l'avez pas aimé, c'est le même tarif, je vous la refais. Il est encore sous le choc de sa rencontre avec Emmanuel Moire, vendredi à Rouen. Ouais. Au début, il avait voulu jouer les distants, et ça c'est vrai, pour créer le mystère. Mais il n'a pas su tenir sa stratégie lorsque, gêné par ses regards insistants, le chanteur du Roi Soleil a demandé...
Juste une petite question, qui a voulu se taper Emmanuel Moire?
Pierre n'a pas pu s'empêcher de lever la main. La suite n'appartient qu'à eux. Mais Pierre, vous êtes de retour à ce micro après votre branlé tout à l'heure dans le quiz. C'est pour nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur le mal logement en une minute chrono.
Mauvais.
Retrouvez votre sérieux.
En tout cas, cette histoire vous inspire. En effet, le mal logement cet après-midi avec le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, Christophe Robert, qui nous a présenté son dernier rapport annuel. Et comme tous les ans, la crise du logement s'accentue en France. Nouvel exemple de cette malédiction. 600 000 personnes vivent aujourd'hui chez un tiers, un membre de leur famille, des amis, des connaissances, et ce, de manière contrainte. On pourrait parler parler de solidarité ou d'entraide, mais la personne qui vit chez un tiers se trouve irrémédiablement dans un état de dépendance. Ça peut même aller jusqu'à des violences. C'est un indicateur de crise, nous dit la Fondation, le dernier rempart avant la rue, et le phénomène grossit. La faute à la défaillance de plusieurs politiques publiques, d'après Christophe Robert. Pas de solution d'hébergement pour les personnes libérées de prison, pour les personnes expulsées, pour les adultes qui sortent tout juste de l'aide à l'enfance. Ajoutez à cela le prix du logement locatif et les expulsions facilitées depuis la dernière loi en la matière. 2025 fut encore une année noire, mais la malédiction n'est pas une fatalité. On peut améliorer les choses, nous a dit notre invité, si seulement les responsables politiques pensent au long terme. Après 20 ans de politique du logement, encadrement des loyers, construction de logements sociaux, aide aux sans-abri, les résultats se voient. 20 ans sans agir, ça se voit aussi. Voilà pourquoi la Fondation pour le logement des défavorisés demande aux candidats aux municipales à s'engager.
Merci Pierre. Christophe Robert, il a tout bon, il a bien compris.
Très bien, franchement.
Il était meilleur que dans le Zoom Zoom Test, en tout cas.
Je confirme.
Ça, c'est sûr. C'est pas très difficile, oui, c'est vrai. Et on retrouve à présent, j'essaie que ce fléau du mal-logement a révolté.
Bonjour à tous. Oui, 4,2 millions de personnes sont mal logées en France. Triste chiffre qui inclut les SDF, mais aussi toutes les personnes vivant dans une maison refaite en 2008 par Valérie Damidot. Coup dur pour le stickers bonheur sur mur rouge qui tombe enfin sur les coups de la loi. Hein, Quentin qui se dit mince, je dois repeindre mon appart. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de mon tableau New York?
Quoi, ouais, je ne reçois pas les gens avec des cougères picards.
Oui, bah ouais. Oh waouh, une attaque de la part. En même temps, avec tes petits picots sur la tête, j'imagine que tu n'avais pas un chagall au mur. En tout cas, c'est le rapport annuel du mal-logement qui est publié aujourd'hui par la Fondation Abbé Pierre. Pardon, il y a eu rebranding d'urgence, pardon. Par la Fondation pour le logement des défavorisés. Bon, c'est plus long, hein, mais ça pue moins. Ce qui serait d'ailleurs un très bon slogan pour des poires à lavement.
Oh, non.
Franchement, moi je m'en suis pas encore remis de l'histoire de l'abbé Pierre. Je m'en suis pas encore remis, mais que même lui c'était un gros porc, c'est dingue. C'est qui les prochains Casimir et Winnie l'ourson? Ça m'étonnerait pas avec tout ce qu'il lèche. Winnie l'ourson avec le miel. On a tendance à penser que le c'était de l'impro, mais vous voyez, tout passe pas en impro, hein, c'est dingue. On a tendance à penser que le mal logement concerne que les sans-abri, mais c'est oublier toutes ces personnes qui vivent à la grande motte. De plus en plus de Français vivent dans des logements précaires. Et non, Mathieu, hein, une maison de campagne sans spa, c'est pas un logement précaire. Comme je te vois, trifouiller ta feuille d'impôt, grosse pince. En France, on estime à 350 000 le nombre de SDF, un chiffre qui monte jusqu'à 400 000 si on les confond avec des bobos du 11e. Ouais, bah ça peut aller très vite. Hein. Regardez Cyril. Franchement, bah faut la tailler cette barbe parce qu'on sait pas si on doit te donner nos chroniques ou des pièces jaunes. Le rapport nous indique que 400 000 personnes vivent chez un tiers de manière contrainte, forme de mal-logement invisible, et je peux témoigner, ayant dormi plusieurs jours sur le canapé de Marine Leonardi. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance, hein, devoir manger sa cuisine plusieurs jours d'affilée. Ça m'a filé la dysenterie. Hein. Puis dès 6h du mat', devoir faire des couettes à ses mioches pour pas qu'elle te morde. Voilà, bah, je peux vous dire que j'aurais été mieux sous un pont. Hein. D'ailleurs, les personnes logées chez des tiers peuvent être soumises à de l'exploitation par les personnes les hébergeant. Je plus sois, hein, j'ai dû faire l'aide aux devoirs aux deux gamines alors qu'elles ont les yeux qui se touchent. Mathieu en PLS avec toutes les Philippines qui payent au black, hein, contre une quechua au fond du jardin. Oui, oui, bon, on te fait passer pour un monstre, mon Mathieu,
oui, c'est
alors qu'on sait très bien qu'elles sont mexicaines. Une aubaine, ce Trump, une aubaine. En France, les 10% les plus fortunés possèdent presque 50% des biens. C'est pour ça que je couche plus avec les pauvres. C'est fini. Non, bah, j'ai plus le temps à perdre. Hein. J'ai 33 ans et mon bien le plus précieux, c'est mes DVD Charmed. Donc là, à un moment donné, je vais prendre les bonnes décisions et commencer à coucher utile. Hein, toutes ces années où je me tape le père la carrière, hein, pour 10 balles d'augmentation. Franchement, même à Boulogne, elles sont mieux payées alors que c'est moi qui leur ai tout appris. Le rapport indique que les idées d'extrême droite constituent une menace pour les personnes. Tout court, finalement, mais surtout les personnes mal logées, puisque les mairies RN refusent les politiques sociales, et avec les municipales qui arrivent, ça le temps pour les pauvres. Voilà, donc allez, je reviens sur ce que j'ai dit, j'alternerai un pauvre, un riche, Cyril.
Très bon enchaînement, merci Jessé. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, vous, le nouveau Stevie, comme nous.
Oh,
c'est,
wow.
c'est le surnom que vous a trouvé, Cyril, et c'est assez bien vu. Sur la scène de théâtre des Mathurins à Paris, du 3 au 20 juin, toutes les infos sur ici-jessé.com, et je signale le carton de votre roman, Les bateaux sur la terrasse, car vous êtes aussi un écrivain, qui est déjà 16e des meilleures ventes.
Il paraît. Ouais, je sais pas si Stevie a fait autant.
Non, je ne pense pas.
Mieux.
Merci beaucoup, Jessé. Merci, Christophe Robert, d'être venu nous alerter sur l'état du mal-logement aujourd'hui en France. France et vous pouvez faire un don évidemment à la Fondation pour le logement des défavorisés sur le site don.fondationpourlelogement.fr ou bien par SMS au 92 054. Vous envoyez don pour un don DON 5 pour un don de 5 euros par exemple, don 10 pour un don de 10 euros, enfin ainsi de suite finalement, et don 160 000 si vous êtes aussi riche que Cyril Lacarrière. Merci encore Christophe Robert. Zoom Zoom Zen.